Amen. Merci Seigneur pour ce moment. On va ouvrir la parole du Seigneur ensemble. Tout d'abord un verset dans les psaumes. Psaume 27, verset 4. Les psaumes 27 est un parmi tant d'autres des psaumes de David qui nous montre la relation que cet homme avait avec Dieu. Et ça fait toujours du bien, encore cette semaine, quelqu'un qui, dans des temps pas faciles, me disait « J'ai seulement la force de lire les psaumes ». Mais c'est bien, ça suffit, parce que les psaumes, c'est tellement merveilleux. Comment des hommes ou des femmes qui sont passés par des temps difficiles ont réussi à exprimer avec des mots leur souffrance, et surtout à exprimer, ils ne s'arrêtent pas à la souffrance, mais ils s'arrêtent à la bénédiction, à la grâce de Dieu qui tend sa main toujours pour secourir ses enfants, ceux qui se confient en lui. Alors, le psaume 27 et le verset 4, c'est une demande particulière que fait David. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Je ne sais pas ce que vous mettriez derrière. En tout cas, voilà ce que met David. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Est-ce que c'est ça que vous auriez mis? Je demande une chose, contempler la magnificence de l'Éternel. Ce matin, je voudrais parler du fait d'avoir une juste vision de Dieu. C'est important aujourd'hui, et c'était déjà important pour David, de pouvoir contempler le Seigneur tel qu'il est vraiment. Et de ne pas se faire une fausse idée, un faux Dieu. C'est pour ça qu'on va prendre un contre-exemple. Là, on a pris le bon exemple avec David, mais on va prendre le contre-exemple avec le peuple d'Israël qui s'est fabriqué le veau d'or. C'est dans Exode 32, verset 1er. Et c'est ce texte sur lequel on va s'arrêter. Mais combien c'est important d'avoir une juste vision de Dieu. Exode 32, verset 1er. Vous savez, c'est dans ce contexte où Moïse est sur la montagne. Ça fait déjà plusieurs mois que le peuple a été libéré d'Égypte et on sait comment ça s'est passé de manière grandiose. On aurait tous voulu être là pour le voir, non? Moi, j'aurais tellement aimé voir ça en vrai, en direct. Peut-être que dans le ciel, on aura des aperçus. On pourra discuter avec Moïse, avec Josué, qui l'ont vu de leurs yeux. Mais en tout cas, on croit ce que la parole de Dieu dit, que ce peuple a été délivré avec une main puissante, un bras étendu de la part de Dieu. 3 mois ont passé, et même encore un mois de plus, puisque ça commence à faire plusieurs jours, même 40 jours au final, que Moïse est parti sur la montagne, et regardez ce qu'il est dit. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors le peuple s'assembla autour d'Aaron, et il lui dit « Lève-toi !» « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit, « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent les holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. C'est un amen qui est difficile à sortir, mais c'est la parole de Dieu. Mais quel malheur. Ce Dieu qui a montré sa puissance au travers des 10 plaies d'Égypte, au travers de la mer qui s'est ouverte en deux, au travers de la nuée qui les a accompagnés jour et nuit. Ils ont chanté et on l'a encore réfléchi, médité là, il y a quelque temps en arrière. L'Éternel, qui est comparable à lui, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, ce Dieu qu'ils ont célébré. Ils sont à côté de la montagne qui est recouverte de feu. Il y a la nuée qui est là, la présence de Dieu manifeste sur la montagne du Sinaï. Ils ont eux-mêmes entendu la voix de Dieu comme le bruit de grandes eaux, les tonnerres, les trompettes. Ils ont vu tout ça. Ils viennent juste de s'engager en disant « On va obéir à tout ce que Dieu va nous dire. Alors, tout ce qu'il va nous demander, on va le faire. Il n'y a pas de souci. » Et voilà où ils en sont. Et voilà ce qu'ils sont capables de faire. Vous savez que l'apôtre Paul, en faisant référence à ce texte, va dire « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne les imitions pas. » Vous savez, on a des bons exemples, on l'a pris tout à l'heure avec David, mais il y a des mauvais exemples aussi, qui nous permettent à nous de faire attention à ceux qui pourraient nous faire tomber, ceux qui pourraient nous faire trébucher, et d'être préparés dans les temps difficiles afin de pouvoir tenir bon. On ne veut pas se faire un Dieu à l'image qu'on a envie qu'il ait, on veut contempler Dieu dans toute sa magnificence. En tout cas, ce passage nous montre quelle était leur vision de Dieu. Ce passage nous montre comment ce peuple qui était si près de Dieu a pu tomber si bas. En fait, quand on laisse des mauvaises attitudes dans nos cœurs demeurer, eh bien, on prend le risque que ça déforme notre vision, que ça déforme notre foi. Et on prend le risque qu'on va servir un Dieu qui n'est pas Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une parole qui est encore tellement contemporaine, tellement d'actualité. Alors, je ne parle pas pour nous ici, au contraire, on essaie, on a le souci d'aimer l'Éternel, de le célébrer. On a le souci de la saine doctrine, mais on est entouré et on est inondé par les réseaux sociaux de toutes sortes de théories sur Dieu qui faussent l'image que l'on a de Dieu. Et ce matin, c'est un appel à chacun de prendre garde. Comment garder une juste vision du Seigneur? Il faut savoir résister à la pression. En fait, aux pressions, il y en a plusieurs des pressions. La pression du temps, la pression de l'environnement, la pression du dedans. C'est ce qu'on va revenir dessus ce matin. La pression du temps. La pression du temps qui passe. Est-ce que vous êtes tous contents de voir que le Seigneur tarde dans l'accomplissement de ses promesses? La Bible nous dit il ne tarde pas d'ailleurs. Mais il prend patience. Parce qu'il veut que le plus grand nombre puisse être sauvé. Alors c'est vrai que pour nous, Dieu, un jour est comme 1000 ans, mais pour nous c'est pas le cas. Un jour est un jour. Et parfois, un jour, c'est trop court. On voudrait que ça aille plus vite. Parce que dans le fond du cœur humain, il y a cette impatience. Le temps qui passe exerce une pression sur notre foi. Mais si nous voulons voir Dieu tel qu'il est vraiment, nous devons apprendre à résister à la pression. Regardez, le premier verset, il est clair. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, ils ont commencé à mettre certains projets en avant. Ça fait plus d'un mois donc que Moïse était parti sur la montagne et il n'a pas dit à quel moment il allait rentrer. Nous, on sait, on se connaît à l'avance, on sait que c'était 40 jours. Si on sait les choses à l'avance, c'est facile, hein. Mais eux, ils ne savaient pas. Eux, ils ne savaient pas. Il est parti, ils ne savent pas combien de jours. Est-ce que ça sera 40? Est-ce que ça sera 60? Vous avez déjà patienté un mois pour quelque chose? On sait que ça, c'est faisable, mais c'est pas évident. Et quand on n'a que ça à faire, parce qu'ils sont sortis d'Égypte, et à part s'occuper de leurs troupeaux, leur famille, de manger, boire, etc., et ils sont là dans le désert, il n'y a pas trop d'activité dans le désert. Le peuple voyant que Moïse tardait. Ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est comment ces personnes, ce peuple, a pu s'habituer à l'extraordinaire. Parce qu'à côté d'eux, ils sont peut-être en train de s'ennuyer à leur place, mais à côté d'eux, il y a une montagne en feu. À côté d'eux, il y a toujours un Dieu qui est en train de se révéler à Moïse. Parce que Moïse, il est sur la montagne, mais sur la montagne, il y a des choses qui se passent. Au sommet de la montagne, Dieu est toujours en train de parler à Moïse. Il y a toujours cette activité, la nuée qui est là. Alors peut-être qu'il y a un peu moins de bruit qu'avant, peut-être qu'il y a un peu moins de tremblement qu'avant, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Et malgré tout cela, ils se sont habitués. Et alors que la présence de Dieu est manifeste sur la montagne, ils disent à Aaron, on veut un Dieu. Mais Aaron, il aurait dû dire. Il y a des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Aaron? Alors, on se demande qu'est-ce que nous, on aurait fait alors à sa place. Hein. C'est facile de juger, de pointer du doigt. Mais on a envie de dire, mais regardez, Regardez à côté là. Regardez, Dieu est là. Dieu n'est pas ailleurs. Parfois, on s'habitue à la présence de Dieu, on s'habitue à la grâce de Dieu, on s'habitue aux bénédictions de Dieu, on s'habitue à la simplicité de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire, j'ai peur que vos cœurs ne se détournent de la simplicité de Christ. Pas besoin de chercher des choses extraordinaires, des choses surnaturelles particulières, elles sont déjà là en fait. Et on a besoin de les chérir, de les ressentir telles que, avec la valeur qu'elles ont vraiment. Mais quand on s'habitue à la présence de Dieu et à la grâce de Dieu, on est en danger, frères et sœurs. On est en danger parce qu'on risque de tomber dans l'impatience. Et le résultat de l'impatience, ça les amène à se faire un Dieu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Rien que cette expression, je ne sais pas si vous êtes arrêté sur ça, fais-nous un Dieu, mais ça ne veut rien dire. Si Dieu, il est Dieu, c'est lui qui nous fait, ce n'est pas nous qui le faisons. Fais-nous un Dieu. Mais on comprend du coup la pensée qui est derrière. On comprend que c'est pas, ils veulent pas juste Dieu, ils veulent un Dieu qui les arrange. Ils veulent un Dieu que l'on peut se fabriquer à sa convenance, derrière lequel on peut mettre tout ce qu'on a envie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Dieu est souverain, c'est sa parole qui est la parole de Dieu, c'est lui qui nous dicte les règles et c'est pas nous qui dictons comment il doit être. Et c'est comme ça que l'on fait si on veut avoir une bonne vision du Seigneur. C'est à nous de venir avec le cœur ouvert dans la présence de Dieu et il nous remplit. Mais ce n'est pas à nous de le façonner comme on le veut. En fait, c'est simple, on a le choix entre se faire un Dieu ou s'offrir à Dieu. Vous voyez la nuance? Elle est tellement importante. Le choix d'un Dieu qu'on se fait, finalement c'est une statue, hein, c'est-à-dire un Dieu mort. Dans les Écritures, il est même parlé, ils ont une bouche, ils ne parlent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Mais ça les arrangeait bien, parce qu'ils avaient entendu Dieu leur parler vraiment et ça les avait fait trembler. Et là, ils veulent un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui est muet. C'est beaucoup plus simple. Hein. Mais quand on aime Dieu, on aime qu'il nous écoute, on aime qu'il nous voit, qu'il voit ce que l'on vit, les situations de nos vies, on aime qu'il nous parle aussi. On aime qu'ils nous disent ce que l'on doit faire. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous rassure. Ces promesses, elles sont certaines. Et ça fait tellement du bien. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on a besoin que la parole de Dieu retentisse pour chacun en particulier. Alors, elle est faite de manière générale le dimanche, mais que chacun, pour notre part, on a besoin de chercher le Dieu vivant et vrai pour qu'il nous parle personnellement, qu'il nous dirige, qu'il nous conduise. Parce que c'est ce qu'il aime faire pour ses enfants, le Seigneur. En tout cas, l'impatience déforme notre vision de Dieu. Si nous voulons garder une vision juste, nous devons choisir le chemin de la persévérance. Nous devons nous accrocher, nous devons toujours aller de l'avant, même si c'est dur, même s'il faut serrer les dents. Mais le Seigneur, il est là, il est avec ceux qui persévèrent. Amen. Regardez la réaction aussi de ce peuple face à Moïse. Comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à Moïse? C'est quand même lui qui a été envoyé par Dieu pour être leur libérateur. Alors Moïse, il sait très bien qu'il n'a pas la gloire, hein, mais il a été un instrument de bénédiction. Et regardez ce qu'ils disent. Cet homme qui nous a fait, ce Moïse déjà, celui-là là-bas, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce que c'est ça l'estime et la considération qu'ils ont pour Moïse? On sait en plus par la suite, avec tout ce qui s'est passé, toutes les fois ils ont commencé à lever le poing contre Moïse, on sait qu'en fait c'était que la pointe de l'iceberg là. Mais c'est tellement dommage de ne pas regarder ce qui s'est passé, de ne pas avoir la reconnaissance. C'est quand même, Dieu a utilisé, Dieu avait planifié dès la naissance de Moïse, il avait mis Moïse à part pour qu'il puisse être un libérateur pour son peuple. C'est incroyable. Quand on considère les années qui sont passées, et la patience hein, qu'il faut, parce qu'au bout de 40 ans, c'est Moïse, il a essayé de parler lui-même, et Dieu lui a dit, il faut que tu apprennes encore un petit peu, juste 40 années de plus. 40 années de patience, et après, il va être un instrument entre les mains du Seigneur. À tel point qu'il avait appris la patience qu'il ne voulait même pas y aller. Hein. Mais Dieu l'a convaincu. Et Moïse sait cet endroit du Sinaï, il sait, c'est tellement important, parce qu'il a vécu quelque chose avec Dieu, c'était un signe pour lui, et il savait que sur cette montagne, c'était la présence de Dieu. Mais ce peuple n'a pas de considération pour cet homme. On entend parler nulle part qu'ils ont monté une expédition pour aller secourir Moïse au cas où il s'était blessé, au cas où il était mort peut-être, on ne sait pas. Alors c'est sûr qu'ils devaient pas approcher, certains ne devaient pas approcher la montagne, mais les anciens avaient eu l'occasion de venir. Et si c'était vraiment passé, en tout cas ils auraient pu y penser, c'est ce que je me dis. Mais c'est pas ce qu'ils pensaient. Pourtant, Moïse avait prévenu tout le monde, il avait dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Attendez. Est-ce que ça, on peut être plus clair que ça? Attendez-nous ici. En tout cas, l'impatience rime avec perte de confiance. Quand on est impatient, on trouve que les choses vont pas vite, on n'a plus confiance dans ceux qui nous demandent de patienter et on risque de glisser. Mais le Seigneur nous demande de rester attachés. Rester attachés à ceux qui nous ont fait du bien, à ceux qui nous ont communiqué une parole, à nos frères, à notre sœur, et pas dans l'impatience tout vouloir rejeter, parce que ça c'est le chemin glissant. Et puis le troisième aspect, le troisième résultat de l'impatience, c'est qu'ils vont mettre la pression. Le peuple s'assembla autour d'Aaron, et quand on voit le mot assembler, c'est pas dans un bon sentiment. C'est plusieurs fois ils se sont assemblés autour de Moïse et Aaron, mais c'était pour leur reprocher, pour leur dire « Mais pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte ?» Et c'est dans cette même pensée. Donc imaginez, Aaron, il est là tout seul et puis il voit tout le peuple qui l'entoure. C'est sûr que ce n'est pas évident de tenir dans ces moments-là. Il y a une pression qui s'est exercée. Mais justement, après avoir cédé à la pression de l'impatience, ils vont mettre la pression. Frères et sœurs, on n'a pas un Dieu qui met la pression sur qui que ce soit. Ça, c'est une tromperie. C'est un mensonge du diable. Dieu n'a jamais mis la pression à personne. Il peut user d'amour et de patience pour nous convaincre, mais il ne va pas mettre de pression sur nous. Jésus, regardez Jésus, il a mis la pression à personne. Il propose, il conseille, il invite, mais c'est à nous de répondre. Jésus même se tient à la porte du cœur dans l'Apocalypse. Il se tient à la porte de l'Église, il tape, mais il ne va pas défoncer la porte. Parce qu'il n'est pas dans le forcing. J'ai entendu récemment quelque chose de pitoyable. Quelqu'un qui a dit à une sœur, « Si vous ne vous faites pas vacciner, vous avez perdu votre salut. » Est-ce que ça, c'est pas mettre la pression sur quelqu'un? N'est-ce pas? Surtout venant d'une personne qui ne va plus à l'église depuis des années et des années. Elle pense que sa foi avec Dieu, ça va bien tout seul. Alors vous inquiétez pas, c'est pas dans le département, cherchez pas ici, hein. C'est pas le but. mais c'est dommage. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, oui, quelqu'un qui met la pression, c'est parce que lui-même, il a cédé à la pression. Là, la pression à laquelle la personne a cédé, c'est l'insoumission. Vous savez, quand on est orgueilleux, rebelle, et qu'on veut faire ce qu'on a envie de faire, ben on cède à cette pression-là qui rentre dans notre cœur. Et après, on a envie que les autres fassent comme nous, on a envie que les autres pensent comme nous, on a envie que les autres appliquent. Mais on ne va pas dire à quelqu'un, tu as perdu ton salut parce que tu t'es fait vacciner. Je crois en un Dieu qui met la pression, je crois en un Dieu qui met sa paix dans les cœurs, qui met son repos dans les cœurs, qui met sa grâce dans les cœurs, et qui est toujours là pour nous encourager. Alors si on est loin du salut, il va nous exhorter à être sauvés. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mais si on a vécu l'expérience du salut, eh bien, il va nous encourager à ne pas tomber, bien sûr, mais à marcher de plus en plus près de lui. J'ai trouvé un exemple de frère qui a eu beaucoup de patience et qui a vu sa prière exaucée. C'est le frère Georges Müller, peut-être certains ont entendu parler, cet homme qui vivait avec une foi particulière, qui a monté des orphelinats et qui a vécu vraiment des choses incroyables. Un jour, il a commencé à prier pour 5 de ses amis. Après plusieurs mois, il y en a un d'entre eux qui est venu au Seigneur. Il a continué à prier pendant 10 ans. 10 ans plus tard, il y en a 2 qui se sont convertis. Il a attendu 25 ans de prière persévérante pour que le 4e soit sauvé. Et puis, jusqu'à sa mort, il a prié, il a prié, il a prié. Et pendant 52 ans, donc, il a prié pour ce 5e homme qui ne s'était pas encore donné. Il n'a jamais perdu l'espoir qu'il se donnerait au Seigneur. Mais peu après ses funérailles, l'homme s'est converti. Il n'a pas vu lui de ses yeux, mais sa prière a été entendue du ciel. Ça, c'est la persévérance, frères et sœurs. 52 ans à prier pour que des personnes soient converties. Ça, c'est le chemin de la patience. Et c'est le chemin que nous devons nous prendre et nous écarter de cette voie de l'impatience qui peut nous amener à chuter. Ne soyons pas de ceux qui cèdent à la pression du temps, mais soyons de ceux qui persévèrent pour voir Dieu tel qu'il est dans toute sa gloire. Deuxième pression, c'est la pression de l'environnement. L'environnement exerce une pression sur notre foi. Quand je dis environnement, je parle de société, de le monde dans lequel on vit, la culture, les us et coutumes, la mentalité du monde. Bien sûr, on n'est pas à dire qu'il faut rejeter le monde, on est dans le monde, mais Jésus a dit « vous n'êtes pas du monde ». D'accord ? C'est pas question de ne pas aimer les gens. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas la mentalité, n'aimez pas cet aspect mondain qui est rebelle à Dieu. C'est ça qu'on ne doit pas aimer. Mais on doit aimer les personnes, bien sûr, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Regardez ce qui se passe. Tous ôtèrent, au verset 3, tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportèrent à Aaron, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et en fit un veau en fonte. Bon, il y a une question qui m'interpelle, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la forme d'un veau d'or? Littéralement, d'ailleurs, ce n'est pas un veau qui vient de naître, c'est un jeune taureau. C'est un bel animal, quelque chose qui a de la puissance. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette image-là? Ben, il y a une idée toute simple, c'est d'où c'est qu'ils viennent? Où c'est qu'ils étaient pendant quelques siècles? En Égypte. Est-ce qu'en Égypte, ils n'ont pas vu des choses en Égypte? Ben oui, ils ont vu des dieux qui étaient là avec des têtes d'animaux, et toutes sortes d'animaux d'ailleurs, mais dont des taureaux. Et même Josué va dire, les dieux que vos pères ont servis en Égypte. C'est-à-dire que pas seulement ils les ont vus, mais ils les ont servis. Ils ont offert toutes sortes de sacrifices et vécu leur vie pour faire des cultes à ces dieux-là. Donc ils n'ont pas inventé le veau d'or. Ils l'ont transposé de là où ils l'ont vu, dans l'Égypte qui représente le monde, et ils l'ont appliqué à leur foi. Ça veut dire, choisir un veau d'or, ça veut dire, nous voulons un dieu qui ressemble aux autres dieux. Nous voulons faire comme le reste du monde. Alors que je réfléchissais à ces choses, il y a ce verset qu'on connaît bien, qui est revenu sur mon cœur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Nous avons besoin de rejeter et de ne pas chercher à être comme le monde, mais à être renouvelés par la présence du Seigneur, à recevoir du Seigneur cette transformation de cœur qui nous permet de discerner sa volonté et de ne pas céder à la pression de l'environnement, pour le dire, l'appliquer à ce qu'on est en train de dire, mais que Dieu puisse nous révéler sa volonté. Et Jacques va le dire aussi de sa manière à lui, hein. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Est-ce que, frères et sœurs, c'est pas ce qui s'est passé? Ben si. Dans ce qu'ils ont commencé à faire, fais-nous un Dieu, on veut un Dieu comme en Égypte. Ils sont devenus ennemis de Dieu. Alors, Dieu, il n'est pas content de se battre contre les hommes. Mais parfois, parce que sa parole, elle est immuable et qu'on prend position contre sa parole, mais Dieu combat contre nous, ça peut arriver. C'est une expression biblique. Vous savez, quand il y a des expressions dans la Bible, il faut y réfléchir. Et il y a un psaume qui dit « Dieu est devenu leur ennemi ». Que c'est terrible. Dieu est devenu leur ennemi parce qu'ils ont choisi la voie de l'idolâtrie. Est-ce que nous voulons que Dieu soit notre ennemi? Surtout pas. Non, parce qu'on sait combien il est puissant, combien il est grand, combien il est merveilleux. Donc, quand il déploie sa force, c'est incroyable. Alors, on le veut de notre côté. Hein. Mais plutôt, on ne veut pas qu'il soit de notre côté. Nous, on veut être de son côté. Parce que lui, c'est lui qui dirige toute chose. On a le choix ce matin encore entre l'amour du monde ou la crainte de Dieu, le respect de Dieu véritable. L'amour du monde déforme notre vision de Dieu, déforme notre foi. À quoi est-ce qu'on peut reconnaître qu'on a perdu la crainte de Dieu? C'est ce qui s'est passé pour ce peuple, ils ont perdu la crainte de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été prêts à se sacrifier pour ce qui leur plaît, mais pas pour ce qui plaît à Dieu. Alors, il faut qu'on donne de l'or, il faut qu'on donne des bijoux pour créer une idole. Il n'y a pas de souci, on y va, allez, hop, on sort les porte-monnaies. Quand on est prêt à se sacrifier pour des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ben, frères et sœurs, on a besoin de réfléchir, hein. on a besoin de se poser. Quand on couvre aussi notre désobéissance par une apparence spirituelle, parfois on désobéit délibérément et derrière on va essayer de compenser. Et là, c'est exactement ce qu'ils font. Oui, on a fait une idole, mais voici notre Dieu qui nous a sortis hors d'Égypte. Voici, on va faire un culte pour lui. On va faire quelque chose de particulier. J'imagine, alors là c'est que moi, mais je suis presque sûr, que alors qu'ils étaient en train de chanter, célébrer le culte pour leur idole, ils ont chanté « Qui est comme l'Éternel, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ». Le chant qu'ils ont chanté au chapitre 15 de l'Exode, ils le rechantent là, pour le veau. Quel drame! Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la crainte. Ils ont aimé le monde plus que Dieu. Mais nous savons que le Dieu vivant et vrai n'est pas une statue, même si elle est en or. Nous savons que le Dieu vivant et vrai, il est celui qui est le véritable. Il est celui qui mérite qu'on lui apporte notre respect, de jour après jour. Regardez pourtant ce qui s'était passé dans Exode, chapitre 20. Parce que parfois on peut se dire, bon, Dieu il a quand même réagi violemment, non, et Moïse avait prévenu parce que Dieu lui avait dit, et regardez Exode chapitre 20 verset 18, c'est très intéressant, alors que Dieu est en train de se manifester sur la montagne, il y a toutes sortes de phénomènes physiques qui sont en train de se passer, 20, 18, tout le peuple entendait les tonnerres, le son de la trompette, il voyait les flammes de la montagne fumante, à ce spectacle le peuple tremblait. Ils se tenaient dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. » C'est pourquoi ? C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée. Où était Dieu ? Et quand on voit ce qui s'est passé après, on comprend mieux avec ces versets. Le peuple est resté dans l'éloignement, alors que Dieu voulait leur apprendre la crainte, apprendre le respect. Et Moïse a compris la leçon, lui il s'approchait de la nuée. Lui il y allait, parce qu'il savait que dans la nuée on est inconfortable, dans la présence de Dieu on est un petit peu inconfortable, parce que Dieu nous montre nos péchés, Dieu nous montre tels que nous sommes. Sa parole est un miroir qui reflète les failles de nos cœurs. Mais derrière ça, il y a la grâce. Il y a le pardon, il y a la paix. Et quand on dépasse le stade de la révélation de notre péché, c'est tellement merveilleux. Bah, frères et sœurs, on l'a tous vécu. Le jour où on était convaincu de péché et qu'on acceptait le pardon de Dieu, mais la vie elle a été bouleversée, transformée, et c'est tellement incroyable. Mais eux, ils ont préféré choisir le chemin de l'éloignement. On ne veut pas la crainte de Dieu. Nous, c'est ah, ça fait trop peur tout ça. On veut rester loin. Mais si nous cédons à la pression de l'environnement, si nous aimons le monde, et on risque d'avoir une mauvaise vision de Dieu. Nous sommes exhortés à garder la crainte de Dieu, à la chérir cette crainte de Dieu, à aimer ce que Dieu aime, à haïr ce que Dieu haït, parce que nous aimons notre Seigneur et nous voulons lui plaire. Et je termine avec cette pression, ce que j'ai appelé la pression du dedans, du cœur, des sentiments. Ce qui se passe au-dedans de l'être humain, ça exerce aussi une pression sur notre foi. Ce n'est pas, et ça c'est une leçon très importante, avec les années, je confirme, je valide, ce n'est pas parce que nous avons des sentiments positifs que nous sommes forcément dans la volonté de Dieu. Regardez l'exemple du peuple, ils sont tous unis pour une cause. C'est bien d'être unis, on bénit Dieu pour l'unité, mais on veut être unis pour des bonnes raisons. Là, ils sont unis pour mettre la pression à Aaron pour qu'il fasse une idole pour eux. Le peuple, il est joyeux. Est-ce que c'est bien d'être joyeux? Est-ce qu'on a le droit d'être joyeux en tant que chrétien? Ben heureusement, hein. S'il y a bien une joie, un peuple qui a le droit d'avoir de la joie, c'est nous, parce qu'on a une joie qui ne passe pas. Une joie qui est fondée sur les œuvres éternelles. On a le droit d'être joyeux, mais pour les bonnes raisons, encore une fois. Quand Étienne va raconter l'histoire du peuple, il va dire quelque chose d'intéressant. En ce jour-là, ils se firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Ils se sont réjouis de ce qu'eux, ils ont fait. Ils ne se sont pas réjouis de ce que l'Éternel leur a fait. Ça fait réfléchir, hein ? Une joie, ils ont une joie, mais elle est malsaine. C'est pas parce qu'on a la joie. J'ai vu des gens chanter des cantiques dans les églises et être en total désaccord dans leur vie personnelle. Quand après on apprend ce qui se passe dans la vie personnelle, mais on est en train de pleurer. C'est pour ça qu'il y a un prophète qui a été capable de dire, mais plutôt que de chanter, arrêtez, pleurez, frappez-vous la poitrine et allez sur la cendre, revêtez les habits de deuil. C'est pas un moment pour être joyeux là, c'est un moment pour se repentir. Après, on est dans la joie du pardon. Mais avant, il y a des étapes. Et eux, ils sont dans cette joie mauvaise. Ils sont zélés. Est-ce que c'est bien d'être zélé? Oui, il faut être zélé pour le Seigneur. Le zèle de ta maison me dévore. Ça, c'est un verset qui me touche à chaque fois. Et ça a été appliqué à Jésus, mais ça doit être notre part aussi. Alors, il faut être zélé, il faut être plein de sagesse, bien sûr. Mais eux, ils sont zélés, ils se lèvent de bon matin. Ils offrent des holocaustes, des sacrifices, d'actions de grâce. Super! Oui, mais c'est une idole. C'est pas Dieu. Tu déploies plein d'efforts, tu te lèves, tu as mis le réveil et tout ça, mais pour quelqu'un qui n'est pas Dieu, pour quelque chose même qui n'est pas Dieu. Quel dommage, quel gâchis. Le veau ou le bœuf, c'était l'animal qui était dans leur troupeau. Moi, c'est ça qui me sidère, c'est que le bœuf, c'était un animal qu'ils voyaient tous les jours dans leur troupeau, dont ils s'occupaient, ils donnaient à manger, etc. Ils faisaient paître, ils tiraient leur char, le bœuf. En gros, c'était ce qui leur rendait service. Et ils disaient, je veux un Dieu qui se met à mon service à moi. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que nous voulons ce Dieu-là? Ou nous voulons, Seigneur, nous mettre à ton service parce que tu es merveilleux? Je me souviens de l'exemple malheureux de cet homme qui m'a dit, depuis, ça m'a fait trembler intérieurement quand j'ai entendu ces paroles, depuis que j'ai choisi de divorcer, je suis en paix au-dedans, merci Seigneur. Alors, il peut y avoir des circonstances très compliquées, etc. Je ne suis pas en train de juger, mais dans le contexte, quand on sait que c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché du secours auprès du Seigneur pour son mariage, qui n'a jamais demandé, compris, quoi que ce soit, qui venait à peine à l'église quand ça l'arrangeait. Et moi, je lui ai dit, alors je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, je lui ai dit, vous savez, on peut être en paix avec le diable. C'est pas parce qu'on est en paix qu'on est en paix avec Dieu. On peut être en paix avec le diable. Le diable peut nous laisser tranquille et peut nous faire croire que tout va bien. Imaginez, enfin, souvenez-vous de Samson sur les genoux de Dalila. Est-ce qu'il n'était pas en paix là? Ben oui, il était bien. Il était super. Sauf que la nuit après, ça a été le drame. Et les années qui ont suivi, c'était dramatique. Frères et sœurs, c'est pas parce qu'on a des sentiments positifs que tout va bien. La Bible nous dit, d'ailleurs c'est l'un verset qui le dit, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Je passe le verset, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On a des sentiments, on est des êtres humains, on ne peut pas les maîtriser nos sentiments. Par contre, on peut utiliser la parole de Dieu pour qu'elle juge nos sentiments, pour qu'elle recadre, pour qu'elle nous montre ce qui est bon, ce qu'il faut garder, et ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut se défaire. Quand Néhémie va parler également de ce peuple, il va dire qu'ils ont, ils se livrèrent, ils livrèrent envers toi à de grands outrages. Quand ils se sont levés pour manger, pour boire, et après ils ont commencé à faire des outrages au Seigneur. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Les commentateurs disent que il y a eu des danses, il y a eu de l'ivresse, il y a eu peut-être même des choses qui sont allées plus loin. En tout cas, ils ont fait tout ça. Même le fait de chanter, de danser, c'était déjà mauvais parce que c'était pour une idole. Mais ça a été la conséquence de céder à la pression du dedans, du cœur. Laissons la parole de Dieu faire le tri en nous, frères et sœurs. Laissons la parole du Seigneur nous donner cette force pour tenir bon face à la pression. Il y a plein de pressions. J'aurais pu continuer 2 heures de plus, mais je ne vais pas le faire, pour expliquer toutes les pressions auxquelles qui nous malmènent. Mais ce que l'on sait, c'est que si on serre cette parole contre notre cœur, ben on est capable de résister, de ne pas pécher contre l'Éternel. Si on garde la crainte de l'Éternel devant nos yeux, on ne pêche pas. Si on est persévérant, le Seigneur nous donne la force de tenir bon et de voir sa gloire. Nous voulons avoir la juste vision de notre Seigneur. Et nous croyons que dans ces moments, ce sont des temps qui contribuent à cela. On va fermer les yeux quelques instants et on va prendre le temps de contempler le Seigneur dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence. Frères et sœurs, il est là, notre Seigneur. Déjà, dès le début, avec les chants, avec les louanges que l'on a fait monter, si nous avons les yeux de la foi, nous voyons qu'il est présent, notre Seigneur. Mais il est toujours là. Et quand sa parole est annoncée, il est là. Quand des cœurs et les cœurs des hommes et des femmes qu'il a créés crient à lui, il est là, le Seigneur. Quand des hommes et des femmes cherchent sa face, cherchent à le voir à lui tel qu'il est, et ne cherchent pas à se faire des dieux à leurs images, alors il est là. Est-ce que vous avez besoin que le Seigneur vous fortifie ce matin? Alors venez auprès de lui, simplement. Et dans ce moment, en rentrant dans le Saint des Saints, laissez-vous envahir par sa présence, par sa paix. Laissez dans vos cœurs se développer la crainte. Choisissez le chemin de la persévérance. Choisissez de marcher à l'écoute et dans l'obéissance de sa parole. Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin qui sont là devant toi. Nous ne voulons rien cacher, nous ne voulons rien occulter. De toute façon, tu vois même plus loin que ce que nous voyons nous-mêmes, Seigneur. Mais nous voulons présenter nos cœurs devant toi. Et nous prions que ta parole puisse juger les sentiments et les pensées de nos cœurs. Si nous nous écartons, si nous laissons des pensées qui ne t'honorent pas, alors viens, Seigneur, nous corriger. Viens, Seigneur, nous apprendre. Viens nous façonner. Si, Seigneur, nous laissons des choses qui nous détournent de toi, Seigneur, viens faire ton œuvre en nous. Que ton Saint-Esprit, en toute sa puissance, Seigneur, ce matin, vienne convaincre nos cœurs de péché, de justice et de jugement. C'est là notre prière, parce que nous savons que tu nous aimes. Oui, nous l'avons chanté, tu es ce Père. Mais tu es ce Père qui prend soin de ses enfants. Tu es ce Père qui a des plans, des projets pour tes enfants. Et nous croyons, Seigneur, que tu veux déployer tout cela envers chacun d'entre nous, envers cette église d'Auch, envers tes églises dans le Gers. Seigneur, bénis ton œuvre, bénis tes enfants, bénis nos familles, que nous soyons, Seigneur, de ceux qui apportent autour de nous cette image correcte et juste et pure de ta sainteté, de ton amour, de ta vérité. Que nous ne soyons pas de ceux qui donnent une fausse image de toi. Garde-nous, Seigneur, de nous faire des faux dieux. Garde-nous de déployer notre zèle pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ô Seigneur, nous plaçons nos vies devant toi avec humilité, mais nous bénissons ton nom parce que nous voyons qu'il y a des exemples, comme David, comme Moïse, qui ont choisi la bonne part. Nous demandons une chose, Seigneur, c'est que nous puissions habiter dans ta maison tous les jours de notre vie pour te contempler. Merci, Éternel. Merci de faire grâce à ton peuple. Amen.